8h35, alors, les commissaires, premier sujet ce matin, il s'impose un an après le début de la pandémie au Québec. Le premier ministre Legault fait la tournée pour présenter son bilan et se dit « j'ai fait ce que j'avais à faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire vraiment de plus ?» Alors la question, Luc, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose de plus ou de mieux?
C'est clair, écoute, on a passé un an à scruter les décisions de M. Legault, puis on a trouvé des dizaines et des dizaines d'incohérences, puis d'erreurs, puis de failles, puis de retards. Mais des erreurs, des failles, des retards, il y en a eu dans tous les gouvernements à travers le monde. Puis moi, je me suis plutôt posé la question, on reviendra quand même sur certaines de ces erreurs-là qui sont fascinantes, là, mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites, qui auraient tout changé, qui auraient vraiment pu changer l'allure de la crise ici? Et on a l'avantage au Canada d'avoir une province, la Colombie-Britannique, qui est dans celle qui a fait le mieux au monde. Est-ce qu'on aurait pu suivre ce modèle-là, être dans les meilleurs au monde? Je pense que s'il y a une décision qui aurait pu nous faire passer de province qui a un des taux de mortalité les plus élevés au monde à une province qui a un des taux de mortalité les plus bas au monde, c'est cette fameuse décision sur le personnel en CHSLD. Donc, il manquait de personnel en CHSLD. Lorsque la crise est arrivée, en plus, il manquait d'équipement de protection individuelle et le croisement de ces deux choses-là a fait que des gens sont partis. La charge de travail était trop élevée. La protection n'était pas suffisante. Et la charge de travail qui est restée sur ceux qui restaient, celles qui restaient plutôt, parce que ce sont surtout des femmes, devenait impossible. Et c'est là qu'on s'est mis à avoir des trucs barbares, donc des gens qui ne sont pas nourris, des gens qui ne sont pas déshydratés, des gens qui ne sont pas visités parfois, parce qu'à partir du moment où ils étaient malades, ils avaient de la difficulté, les gens ne voulaient pas rentrer dans leur chambre. Et c'est ce qui a fait toute la différence en termes de nombre de morts. Et autour de ça, il y a eu tout un flou aussi. Il y a eu donc la circulation entre les établissements. Ça a pris du temps d'interdire la circulation entre les établissements. Après ça, on a la création des zones chaudes, froides, intermédiaires. Ça a pris du temps avant qu'elles soient respectées. La compréhension du déplacement des malades des hôpitaux vers les CHSLD, et là-dedans, il y avait des gens qui étaient malades de la COVID. Ça a pris du temps avant de comprendre. Puis le matériel de protection. Alors, tout ça, tous ces éléments-là constituent la plus grosse erreur, cette bulle-là, mais en même temps, aussi le meilleur coup de Legault, puisque après avoir fait cette erreur énorme, ils se sont réveillés, ils ont procédé à l'embauche de 10 000 personnes. Bon, il y en a seulement 7 000 qui restent, mais quand même, ça a été un changement de cap radical. Alors, à la fois la pire erreur, à la fois le meilleur coup.
Nathalie.
Mais il y a le fond et la forme, en fait. Sur le fond, je ne connais pas beaucoup d'analystes et de chroniqueurs politiques qui vont se transformer en gérants d'estrade pour critiquer le gouvernement ou encore qui vont lancer des tomates à François Legault. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, il faut reculer dans le temps, il y a un an, c'était presque la noirceur là au Québec et partout sur la planète. À peu près toutes les juridictions ne s'attendaient pas à vivre une crise comme celle qu'on a vécue. Alors, évidemment, c'était extrêmement difficile, puis on s'est rendu compte qu'on avait un réseau de la santé que François Legault compare à juste titre à un paquebot. C'est comme le Titanic, là, pas facile de faire tourner un Titanic. Alors, je suis d'accord avec Luc sur le fait que la liste des faux pas est très nombreuse. Cependant, sur la forme, on sent que François Legault déploie énormément d'énergie pour se justifier. La seule admission qu'il a fait, il l'a confirmé à Louis Lacroix, notre collègue journaliste, c'est de dire on aurait dû augmenter le salaire des préposés un peu plus tôt. Faut se rappeler, lorsque le gouvernement a été élu en octobre 98, il bénéficiait des larges surplus de l'austérité libérale de Philippe Couillard. Et à ce moment-là, il n'a pas choisi, François Legault, d'augmenter le salaire des préposés parce qu'il savait très bien, François Legault, ce qui se passait dans le réseau de la santé. Lui-même était ministre de la Santé dans le passé. Ce qu'il a choisi de faire, il faut se le rappeler, c'est baisser, c'est une de ses premières actions, c'était de baisser la taxe scolaire pour l'ensemble des propriétaires fonciers au Québec, une mesure qui va nous coûter, qui peut-être nous coûte déjà près d'un milliard de dollars. Fait qu'en termes de priorité politique, on s'entend que lui considérait que c'était plus sexy diminuer les taxes sur le plan politique des contribuables que d'augmenter le salaire des préposés. Alors, moi, je dis, est-ce qu'il aurait pu faire plus? C'est sûr que c'est facile de dire aujourd'hui, oui, il aurait pu faire plus. Par contre, ce que François Legault devra faire, c'est rendre des comptes, parce qu'il nous parle souvent d'imputabilité, sur cette liste de faux pas qui est quand même assez importante. Luc, tu référais à la Colombie-Britannique. Hein? Je sortais encore hier des chiffres. 1355 décès versus 10 385 au Québec. Écoute, c'est un monde de différence. Et là-dessus, effectivement, je pense que François Legault devra rendre des comptes. Ça me semble évident. Il ne veut pas d'enquête publique, soit, mais quel genre de post-mortem le gouvernement est prêt à faire pour qu'on puisse véritablement comprendre ce qui s'est passé, l'objectif étant de nous améliorer.
Nathalie, tu parles de la taxe scolaire, tu as tellement raison, j'en ai parlé aussi souvent, ça me hérisse de voir que ça a été une des premières décisions. Puis,
oui.
Mais il y a une autre décision aussi qui rappelle qui nous sommes, hein? C'est le stationnement autour des hôpitaux. 150 millions de dollars par année pour baisser le coût du stationnement autour des hôpitaux. Je sais que tu sors de bonnes raisons pour le faire, mais pendant ce temps-là, tu avais des préposés aux bénéficiaires qui gagnaient un peu plus que le salaire minimum, là, t'sais, et qui sont partis en grand nombre. Alors, tu sais, les priorités, tu as raison de dire qu'il faut les regarder en profondeur. Ouais. Moi, l'autre grande décision que tout le monde a questionnée, puis partout à travers le monde, mais ici, on a été hâtifs pour la prendre, c'est celle du confinement lui-même. Est-ce que la décision de confiner en début de crise était la bonne? On a fermé les écoles en mars. Et les gens se disent que ça a servi à rien parce que pendant ce temps-là, les personnes âgées mouraient comme des mouches dans les CHSLD. Moi,
Mais là, Luc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un mauvais calcul de fait à l'époque. Et ça, François Legault fait fait à peine une admission par rapport à ça. Lui, il dit « j'ai été plus prudent que la santé publique ». Tu comprends?
Oui.
Lui, il dit « heureusement que j'ai été plus prudent que la santé publique, ça nous a permis de sauver des vies ». Hein? Il a dit ça, là.
Je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison parce que on se dit « ben on a déjà un des nombres de morts les plus importants au monde. Est-ce que ça aurait pu être pire? » Ben oui, ça aurait pu être pire. Si on prend le Québec, puis qu'on compare le nombre de morts si on avait été un État américain, on aurait été au 32e rang des États américains pour le nombre de morts. Avec des États comme le New Jersey, New York, le Massachusetts, le Connecticut, la Pennsylvanie, bien en avant de nous. En fait, deux fois plus de morts, New York, New Jersey, Massachusetts, qu'au Québec. Donc, la crise que nous avons eue dans la première vague a été limitée au CHSLD, en grande partie, disons, dans l'essentiel de celle de la crise, là, en nombre. Et ça, donc, on ne peut pas remettre en cause le confinement en disant « de toute manière, on a eu le pire ». Non, le pire, c'est juste au sud de la frontière. Les gens, qui ont eux, ils ont refusé le confinement, ils ont retardé dans plusieurs États le confinement le plus possible, et ça leur a coûté deux fois plus de morts que nous.
Ouais. Moi, là, Luc, il y a une affaire qui m'a fatigué durant la première vague, là. Et c'est toujours de se comparer au pire, finalement. Moi, j'étais fatiguée à un moment donné d'entendre François Legault se comparer à l'Ontario, par exemple, ou encore... parce qu'à un moment donné, au début, il ne faisait pas ça. Il se comparait à l'Allemagne. En fait, là où c'était, là où ça lui permettait... Oui, bien, c'est ça où ça permettait de, comment dire, de nous bien faire paraître. N'empêche que le bilan de cette crise-là, pour le gouvernement de François Legault, il demeure le pire bilan au pays. Écoute, 10 385 morts. Puis Paul, tu le disais un peu plus tôt, là maintenant, le défi, c'est de vacciner les personnes âgées à domicile parce que ces personnes âgées, souvent isolées, meurent. Les cas de mortalité actuellement sont plus importants dans les foyers, dans les résidences privées pour ces personnes âgées. Elles meurent davantage chez elles que dans les CHSLD. Là, c'est comme un an après la pandémie, il faut faire preuve de souplesse pour éviter que le nombre de morts augmente de façon,
Mais je vous suggère de lire le livre d'Alec Castonguay que j'ai lu en fin de semaine avec beaucoup d'intérêt, Le printemps le plus long, là, qui sort aujourd'hui chez Québec-Amérique. Et le premier constat qu'on fait, c'est qu'au fédéral, à Québec ou partout dans le monde en général, la santé publique n'est d'aucun intérêt. C'est-à-dire que les élus considèrent que tant qu'on n'a pas une crise qui nous saute dans le visage, on n'a pas à se préoccuper ou à investir dans la recherche, dans l'achat d'équipements. On a assez d'équipements. Puis il y a un mémo, entre autres, du ministère de la Santé qui disait dans le cadre d'opérations normales, on en a pour 2 ans. Oui, mais t'es en pandémie, là, t'es plus dans une opération normale. Et je te dirais, là, ça frappe tellement, et surtout, l'autre élément, l'incapacité pour un élu d'avoir leur jeu sur ce qui se passe dans le réseau de la santé, sur le nombre d'employés disponibles, sur les pièces d'équipement, sur le nombre de lits qu'on a vraiment ouverts ou pas. Sérieusement, là, ils ont pris des décisions avec des informations partielles, incomplètes.
Ben oui,
c'est comme si le gouvernement naviguait à vue, là, littéralement, ce qui s'est passé. Là.
À bien des moments, oui.
Il y a même des directeurs de CIUS qui n'avaient pas les chiffres pour leur propre CIUS. Hein. On cite un directeur de CIUS en particulier qui s'est trompé d'un ordre de grandeur de 7. Donc, il a pensé qu'il y avait 7 fois plus de morts dans son CIUS qu'il y en avait vraiment. Mais justement, pour la prochaine crise. Parce que c'est comme ça, les crises. Hein? Il y a une inondation, l'État achète des sacs pour la prochaine crise, il va y avoir plus de sacs de sable. Oui, mais la prochaine crise, c'est une invasion de sauterelles, les sacs de sable ne servent à rien. Fait que la question, c'est de savoir comment tu mets de la flexibilité dans le système. Rappelons-nous qu'au tout début de la crise, il y a une gestionnaire de CHSLD qui a pris toutes les bonnes décisions au Québec. Elle a interdit la circulation entre les zones. Elle a changé les chiffres de travail pour qu'une personne ne passe pas d'un étage à l'autre. Elle a fait tout ça sans que Legault lui dise, là. Et il y en a plein d'autres qui, eux, ont attendu l'ordre du gouvernement pour savoir comment se comporter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flexibilité dans notre système.
Bien, il faut mettre l'âge dans les CIUSSS, puis dans les CIUSSS, ça, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire que la structure est trop lourde, il y a trop de bureaucratie, la chaîne de commandement, de décision, écoute, n'en finit plus de finir. Ça, c'est la première chose à faire, selon moi. Oui, là, vous allez me dire, ouais, encore brasser des structures. Bien, je pense que c'est un passage obligé pour, effectivement, se donner plus de flexibilité et plus de souplesse. L'autre chose, je connais pas beaucoup. Je pense que la cote d'amour des Québécois est encore très, très bonne à l'endroit de François Legault. Et selon moi, c'est une des grandes révélations de cette crise de la pandémie un an après. C'est que malgré toutes les zones de turbulence qu'a traversé le gouvernement, François Legault demeure toujours très populaire. Alors, c'est assez incroyable. Demain matin, il y aura élection, là, 90 sièges sur 125. Mais c'est quelque chose.
On s'arrête là-dessus. On retourne à un important dossier. Est-ce que M. Patate... non, mais qu'est-ce que je te dis? M. Patate, qui est une créature de la compagnie Hasbro, la compagnie nous annonçait la semaine dernière vouloir moderniser. Là, il y a eu toute une controverse. Est-ce que le M. Patate va disparaître? Dans les faits, pas vraiment. Mais on aimerait créer un Patate. Une tête de patate non genrée. On en discute après la pause, mais on va aller voir ce qui se passe sur la 15.